Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté une affaire criminelle de 1910 à Paris, l'assassinat d'un garçon de recette nommé Jean-Émile André par deux adolescents de 16 et 17 ans qui s'appelaient Georges Tissier et Paul Desmarais. Tous les deux ont été condamnés à mort, leur peine ayant été commuée en travaux forcés à perpétuité. Et je débriefe cette histoire avec vous, Pierre Piazza, vous enseignez la science politique à Cergy Pontoise et vous publiez aux éditions de La Martinière « Meurtre à la une », Le quotidien du crime à Paris en 1900. On est d'accord qu'il est plus facile de requérir la peine de mort et de condamner quelqu'un à mort quand on sait que derrière, le président de la République va le gracier.
Oui, bien sûr. En fait, la question se pose de la sévérité du jugement à l'époque. Mais bien évidemment, à cette période-là, on sait aussi que ce président-là, quasi systématiquement, en fait... commu la peine de mort aux travaux forcés certainement ça a joué bien sûr sur le verdict que vous avez précisé dans votre narration.
Oui, c'est un verdict pour l'exemple quoi. Exactement. Sachant qu'il ne sera pas exécuté.
Exactement. Après il y a quelque chose d'assez intéressant, ce que j'essaye de montrer dans cet ouvrage, Meurtre à la une, c'est que toute cette belle narration que vous avez faite de l'histoire, on la connaît grâce à plusieurs sources qui sont déterminantes. Il y a la presse.
Moi, je l'ai écrite entièrement sur la presse de l'époque.
Alors, il y a la presse.
Le Petit Journal, essentiellement, fait un recensement de l'histoire jour après jour dans tous les détails. Tous les détails.
Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que la presse, à l'époque, la presse à grand tirage, la presse qui devient un produit industriel, on estime... À la belle époque, il y a à peu près 10 millions de journaux qui sont publiés chaque jour. Donc, vous voyez, on a
beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Beaucoup plus qu'aujourd'hui, on a une presse qui rentre dans la sphère intime des personnes, dans les domiciles, elle est distribuée dans les gares. On discute de son contenu, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que ce qui transparaît très bien à travers la narration que vous avez faite de cette affaire, c'est que la presse construit médiatiquement le fait divers criminel et le place à sa une.
Avec des photos et des dessins.
Exactement.
C'est un peu la nouveauté de l'époque, n'est-ce pas ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a aussi de nouvelles rotatives qui permettent d'imprimer en couleur, notamment de l'iconographie. Et donc ça marque les esprits. Et bien évidemment, la presse en fait un argument éditorial pour séduire un public extrêmement large. Et puis, il y a une deuxième source qui est intéressante, c'est la police scientifique qui se développe à l'époque et qui va aussi, à travers une autre forme d'image, les photographies de scènes de crime, documenter les crimes. Donc on a ces deux sources-là qui permettent d'avoir une idée assez fidèle de ce qu'étaient les affaires à l'époque.
Les infos que retranscrivent les journaux, ils les tiennent de leur propre enquête ou de fuite de l'enquête de police ?
Alors, il y a deux types d'enquêtes de police. Celle que vous avez mentionnée, la Sûreté parisienne, qui mène son enquête en interrogeant le voisinage, en interviewant parfois la famille des victimes, qui aussi, bien évidemment, fait appel à des indicateurs, qui procède à des rafles, quelquefois, dans des endroits, dans des cabarets un peu sordides, etc.
Et qui donne ces infos aux journalistes ou pas ?
Alors, et qui donne parfois ces infos aux journalistes, mais pas toujours. Quand elle a intérêt à le faire, elle le fait. Et puis, on a à côté de ça aussi la police scientifique qui mène un autre type d'enquête qui, elle, essaye de faire parler, d'accéder à la vérité sur les crimes en faisant parler les indices. Les indices infinitésimaux, les traces, etc. C'est ce que fait Alphonse Bertillon, qui va créer le service de l'identité judiciaire parisien, premier service d'identité judiciaire au monde et qui documente aussi les scènes de crime.
Et donc, il est allé sur cette scène de crime,
bien
Bertillon.
Sûr, on voit les photographies dans l'ouvrage. C'est lui qui prend les photographies ce qu'on appelle les photographies métriques de ce garçon de recette, Jean-Émile André, une photographie prise d'en haut où on voit très bien ce que vous avez mentionné, les jambes qui ont été ligotées, les armes qui ont servi à le tuer, couteau, fer à repasser, etc.
Et les journalistes donc à côté font leur propre enquête,
voilà,
réinterrogent tous les témoins, les voisins, les mamans, les papas,
exactement,
etc.
On a aussi ce qu'on appelle les faits diversiers qui en fait sont des journalistes qui vont sur le terrain, qui interrogent, qui interviewent aussi les personnes, qui essayent de glaner des informations, et c'est intéressant aussi, qui documentent visuellement les crimes autrement, soit par des dessins, on fait appel à des dessinateurs, soit par la photographie. Et donc, on a en effet un traitement iconographique très riche de ces affaires-là à l'époque.
Vous nous avez raconté combien la presse s'investissait dans ces enquêtes criminelles et en rendait compte au quotidien. Mais est-ce que tous les journaux, à cette époque-là, tombent dans le bain du crime ?
On peut dire oui, parce qu'on a la presse qui est la presse parisienne, qui fait état de ces affaires à sa une. Donc on a le Petit Journal que vous avez mentionné, mais aussi tout un tas d'autres journaux.
Le Journal aussi.
Le Journal, le Petit Parisien, mais aussi tout un tas d'autres journaux parisiens avec de forts tirages. Et puis, ce que j'essaye de montrer dans l'ouvrage Meurtre à la Une, c'est aussi quelque chose qui gagne la presse de province. On a, pour chaque affaire dans cet ouvrage, mis une double page de une, et on voit très bien qu'aussi la presse de province se fait l'écho de toutes ces affaires. Donc il n'est pas exagéré de dire qu'à l'époque, le fait divers devient un phénomène national et investit non seulement la sphère domestique, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi la sphère publique à travers des débats qui tournent autour de qu'est-ce qu'on fait avec le crime.
C'est cette affaire, en vérité, il y a un contexte politique. Et il faut qu'on en parle. Dans son réquisitoire, l'avocat général dit « Les deux accusés sont jeunes, ils le sont tous maintenant ». Et ce qu'on entend là-dedans, c'est qu'il y a donc un contexte de délinquance juvénile.
Oui, on parle beaucoup à l'époque des fameux Apaches. Et j'évoque d'autres affaires dans cet ouvrage, Meurtre à la
Donc
Lune.
Donc sur les blousons noirs de l'époque.
Voilà, on a de jeunes garçons qui sont mineurs, ceux que vous avez mentionnés dans cette affaire ont 16 et 17 ans, et qui n'hésitent pas à tuer pour se procurer de l'argent. Et cet argent, dans l'affaire que vous mentionnez, ils l'ont dépensé en 24 heures, 48 heures, pour faire la bombe, selon l'expression, c'est-à-dire faire la fête, s'offrir des cadeaux, s'offrir des prostituées, traverser Paris en voiture, etc. Donc c'est ça qui choque à l'époque, c'est que ce sont des garçons qui, a priori, sont issus de milieux populaires, mais qui ont été bien élevés, et qui, d'un seul coup, décident juste pour l'argent de tuer pour faire la fête pendant quelques heures. Et ça, c'est assez déroutant à l'époque. Hein. Et du coup, il y a tout un tas de discussions autour de...
Sur le pourquoi.
Pourquoi ont-ils fait ça ?
Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'on répond ?
Alors, il y a plusieurs types d'explications. Alors, certains vont dire que certains jeunes sont dépravés, bestiaux, aimant la violence, etc.
Oui.
Bon, il y a d'autres types d'explications. C'est est-ce que cela n'est pas nourri par la pauvreté, hein, quand on vient d'un milieu social assez pauvre? On a des envies, on regarde la société de consommation qui commence alors à se développer, et puis on a des envies de jouissance, et donc cette jouissance, elle passe par l'accaparement d'argent qu'on n'a pas, d'où le meurtre de ce garçon de recette. Il y a d'autres types d'explications aussi. Est-ce que ce serait pas lié à une loi qui est votée, la loi Naquet sur le divorce, qui autorise le divorce et qui diminuerait l'autorité parentale, qui ruinerait l'autorité parentale. D'autres mettent en avant aussi, par exemple, la loi de séparation des Églises et de l'État. Est-ce qu'on n'a pas une laïcisation du monde qui fait que les jeunes se détournent des valeurs religieuses, des valeurs morales de la religion et entrent dans le mauvais chemin? On a toutes ces discussions-là.
Et le cas de Tissier est intéressant pour le coup, parce qu'il est donc élevé par sa maman, son papa ne l'a pas reconnu,
oui.
Il s'est caleté en courant, et donc il est emblématique de cette nouvelle société un peu dépravée.
Oui, et puis c'est aussi l'idée que les parents, étant des travailleurs laborieux, passent leur temps à travailler, ne s'occupent pas de leurs enfants, n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Et il y a une période durant laquelle, alors c'est souvent mis en avant par la presse, une période durant laquelle les enfants, les adolescents en tout cas, peuvent virer vers un mauvais chemin. C'est la période qui va de la sortie de la scolarité jusqu'au service militaire. Hein. Période durant laquelle ils sont inactifs et traînent dans la rue, peuvent se faire, embarquer par des gens qui ont des dessins assez sombres pour eux, d'où les Apaches. Et puis, je voudrais aussi mentionner un autre débat qui est assez intéressant. C'est un débat qui tourne autour du rôle que joue la presse en la matière. Est-ce que justement la presse, en ne mettant pas trop systématiquement à sa une le crime, ne crée pas des vocations ?
C'est, hein, déjà, parle, voilà, c'est déjà un débat.
Voilà, c'est déjà un débat. Est-ce qu'on parle déjà à l'époque de la presse de sang, hein, c'est-à-dire une presse qui, en décrivant par le menu les moindres détails des crimes, eh bien, pourrait susciter, donner des idées à des enfants un petit peu psychologiquement fragiles. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi mentionné.
À un moment, Madame Labattute, qui est donc l'amie de Madame Tissier, dit « Les mœurs de Georges sont plus que suspectes ». Qu'est-ce que c'est que des mœurs suspectes ?
On a des jeunes qui traînent dans la rue, qui sont inoccupés et qui font de petits larcins. Hein, et puis vous l'avez mentionné.
Non, mais ça c'est pas les mœurs. Oui, enfin, moi, ce que j'entends dans les mœurs, c'est la sexualité.
Oui, alors on a souvent dans le monde des Apaches aussi des adolescents qui deviennent souteneurs. Qui ont des liens particuliers avec des prostituées.
Ou qui fréquentent des prostituées.
Voilà, qui fréquentent des prostituées ou qui sont eux-mêmes souteneurs. Donc ça, oui, on a ce cas de figure-là.
Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, comment qui saute aux yeux, c'est-à-dire que il n'est pas raisonnable, à quelque époque que ce soit, qu'un garçon de recette se promène avec jusqu'à 87 000 francs dans sa sacoche. C'est-à-dire que c'est bien facile d'accuser ces deux adolescents, mais enfin, s'il avait eu au minimum quelqu'un pour le protéger et l'accompagner, il se serait pas fait agresser.
Alors, on a, oui, ce débat-là aussi. Est-ce qu'il ne faut pas protéger ces garçons de recette qui collectent beaucoup d'argent dans les rues de Paris? Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des cas précédents où, en effet, par exemple, le fameux assassin Pierre-François Lassner s'en était pris à un garçon de recette. On a, en 1897, un autre meurtre de garçon de recette par un Italien, qui est Xavier-Ange Carrara, et qui va l'enterrer dans une champignonnière.
Oui, il y a une certaine naïveté quand même à se balader dans Paris à cette époque avec tant d'argent sur soi.
Oui, et puis c'est aussi ce qui choque à l'époque, c'est que justement les garçons de recette sont recrutés parce qu'ils sont honorables, ils ont une bonne moralité, et là on dit qu'ils sont tués par deux gamins qui n'ont pas cette moralité, puisqu'en fait, il faut aussi le préciser, ces deux gamins-là n'ont aucun regret, ne formulent aucune excuse. Et donc ils disent juste qu'on a volé de l'argent pour faire la fête, tout simplement.
Mais les gens qui n'ont pas d'empathie pour les victimes, on les appelle des psychopathes. Et c'est, évidemment, cette piste n'est pas explorée à l'époque, la psychiatrie n'existe pas, ce sont des aliénistes, on ne sait pas vraiment comment ça marche. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, c'est un peu flou. À l'époque, la psychiatrie ne pèse rien, mais voilà deux gamins à qui on prête des motivations politiques, morales, etc., et qui possiblement sont fracassés de l'intérieur.
Oui, ça, c'est compliqué de le savoir en analysant le contenu de la presse. Hein, parce qu'on
le sujet n'intéresse personne à l'époque.
Non, on ne les traite pas de fous, hein, à l'époque. On les
traite, je ne dis pas qu'ils sont fous.
Non,
manifestement, ils ne s'intéressent pas beaucoup aux malheurs de leur vie.
Voilà, ils ne s'intéressent pas aux malheurs des autres. Ils n'ont aucune empathie, comme vous le dites. Mmh. Et pas d'excuses, vraiment aucun regret. Et c'est ce qui fait que l'opinion publique aussi demande une répression sévère à l'encontre de ces gamins qui sont sans foi ni loi.
Alors, ce qui est à noter, c'est la brièveté de la procédure d'instruction, quand même, c'est absolument hallucinant. Ils sont donc jugés un mois plus tard et jugés en un jour et demi. Ce qui est déjà beaucoup pour l'époque, un jour et demi. Mmh. Hein, d'après ce que j'ai lu, les plaidoiries, le réquisitoire et les plaidoiries ont lieu le lendemain parce qu'il est un peu tard devant la cour d'assises. Un mois d'instruction.
Oui, on a aussi des débats qui tournent autour de l'efficacité de la justice à l'époque. Enfin, d'ailleurs, on pourrait commencer par la question de l'efficacité de la police. Est-ce que la police face au crime est efficace à l'époque ? Est-ce qu'il y a assez de présence policière dans les rues, etc. ? Et puis aussi l'efficacité de la justice. Il y a souvent une critique qui est formulée à l'époque, c'est que la justice se transforme finalement en théâtre. Souvent, on vient au tribunal lors du procès pour assister à un spectacle. Et ça, c'est souvent mentionné dans les débats de l'époque. On a l'idée aussi que les criminels profitent de ce moment-là pour se mettre en valeur, pour mettre en valeur leurs exploits. Et donc certains disent, tout simplement, il faudrait faire taire ces criminels et faire en sorte que les procès ne se transforment pas en véritable théâtre où les dames viennent habillées, assister à un spectacle, par exemple.
Et elles y viennent.
Et elles y viennent, bien sûr.
Et elles se battent pour être au premier rang.
Bien sûr, bien sûr.
Comment se fait-il que ces deux mineurs n'aient pas été jugés par un tribunal pour enfants ? Ce qui serait le cas aujourd'hui.
Alors, tout simplement, et c'est ce qui fait aussi débat à l'époque, c'est que ces tribunaux ne sont pas encore créés. La justice des mineurs n'est pas encore créée. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, cette affaire-là va être une affaire qui va donner lieu à des débats sur la nécessité de créer justement une justice pour les mineurs. C'est ce qui va être fait juste après, en juillet 1912.
C'est presque une conséquence
voilà,
de cette affaire.
Voilà, c'est presque une conséquence de cette affaire. On va créer, en effet, une justice des mineurs dans laquelle les juges devront prendre en considération la personnalité des mineurs. On institue la notion d'éducabilité. On va aussi créer des maisons d'éducation surveillées. Et donc, on va mettre en place tout un dispositif plus approprié pour ces jeunes. Il faut savoir que ces jeunes-là aussi, dès les années 1830, 1840, eh bien, lorsqu'ils sont condamnés, souvent, ils sont envoyés dans des colonies pénitentiaires agricoles. On leur fait travailler la terre, etc., pour les séparer des adultes. Mais on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de jeunes délinquants qui ne sont pas jugés par la justice comme coupables et qui traînent dans les rues, qui ne sont pas envoyés dans ces colonies pénitentiaires où on entend les corriger, où on entend discipliner ces vauriens.
Cela dit, pour dire les choses telles qu'elles sont, aujourd'hui encore, à plus de 16 ans, on peut très bien être jugé devant une cour d'assises pour majeur, pour peu que ne soit pas retenue cette fameuse excuse de minorité. Donc sur ce plan-là, on n'a pas beaucoup évolué. Dernière petite question, juste pour rigoler, on trouve donc dans la chambre d'hôtel des crayons rouges pour les lèvres. Vous savez si ça correspond à une manière de s'habiller ou de se préparer pour faire la bombe.
Alors, je sais pas à qui ont servi ces ustensiles.
Peut-être aux filles. Parce qu'il y a aussi des limes à polir les ongles.
Voilà, c'est certainement pour les deux prostituées que les deux tueurs ont trimballé à travers tout Paris, en fait.
Je rappelle le titre de votre livre qui paraît aux éditions de La Martinière, Meurtre à la Une, Le quotidien du crime à Paris en 1900, signé donc Pierre Piazza.
Merci beaucoup.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.